écoutez Alger Chaîne 3, le journal.
Présenté par Sofiane Sabli, bonsoir.
Leïla Djebbol, bonsoir, bonsoir à tous. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu aujourd'hui les ministres des Affaires étrangères tunisiens et égyptiens. Le chef de la diplomatie égyptienne, Badr Abdelhati, lui a remis une lettre du président Abdel Fattah Sisi. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu son homologue tunisien, Mohamed Ali Nafti, dans le cadre de la réunion du mécanisme tripartite des pays voisins concernant la Libye, prévue demain jeudi. Inauguration aujourd'hui d'une stèle à la mémoire des ingénieurs des mineurs soviétiques, dont la wilaya d'Atalaf, le ministre de l'Intérieur, chargé par le président de la République, a présidé la cérémonie en présence du colonel russe à la retraite, Andrei Pavlenko, ancien expert en déminage. Le gouvernement réunit aujourd'hui autour du Premier ministre Sefir Leyeb en examen de projets de décret sur la prévention et la lutte contre les drogues dans les établissements scolaires et de formation. L'Organisation des pays africains producteurs de pétrole sanctionne les travaux de la réunion ministérielle par l'accord de Brazzaville. L'Algérie, représentée par le ministre des hydrocarbures, Mohamed Arkab, s'attelle à renforcer le secteur pétrolier grâce aux compétences et moyens locaux. Coopération algéro-mauritanienne dans le domaine de la pêche, des licences octroyées aux pêcheurs algériens. Le Salon international de la pêche ouvrira ses portes demain au rang. Alors que la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu tarde à se concrétiser à Gaza, où l'entité sioniste commet encore des exactions, les discussions portent actuellement sur la création d'une force internationale dans la bande. Le dossier est sur la table du conseil de sécurité. Et puis clôture ce soir du Festival international du film arabe d'Oran et les perspectives d'un autre festival dans une semaine, le Festival international du court-métrage à Timimoun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Coopération algéro-tunisienne dans cette édition. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd'hui le ministre tunisien des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, la délégation l'accompagnant. Le président de la République a également reçu le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelhati, accompagné d'une délégation et porteur d'un message du président égyptien, Abdel Fattah Sisi, au président de la République. Les deux audiences se sont déroulées en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, et du conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires diplomatiques, Amar Abba. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a reçu aujourd'hui des messages de vœux de dirigeants du monde à l'occasion du 1er novembre, l'anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale. Le président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa, lui a exprimé ses vœux et réitéré son engagement à œuvrer au développement et à l'approfondissement des relations de coopération privilégiées entre les deux pays. Le président vénézuélien, Nicolas Maduro Moros, a également souhaité le renforcement des relations bilatérales dans un message de vœux adressé au chef de l'État, alors que le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El Menfi, a présenté ses chaleureuses félicitations au président Tebboune, réaffirmant sa volonté de travailler de concert avec lui pour le renforcement et le développement des relations historiques entre les deux pays. Des vœux également exprimés par un message du président éthiopien, Taye Atsike Selassie. Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l'Intérieur, Saïd Saïoud, accompagné de l'ancien expert en déminage, le colonel russe à la retraite, Andrei Pavlenko, ainsi que des autorités militaires et civiles de la wilaya d'Atalaf, ont inauguré aujourd'hui une stèle en hommage et à l'appui apporté par les démineurs soviétiques à l'Algérie. Le ministre de l'Intérieur a l'occasion de saluer leur action pour sauver les vies algériennes au lendemain de l'indépendance. Hajjam Saoudi est notre envoyé spécial.
Deux drapeaux, des hommes, des uniformes, la stèle inaugurée aujourd'hui à Aïn Laayoune dans la wilaya d'Atarof raconte une page de l'histoire algérienne. On y voit des soldats algériens et des soldats soviétiques côte à côte, détecteurs en main, unis dans une même mission, celle de débarrasser la terre algérienne des millions de mines posées par l'armée coloniale française le long des lignes Chal et Maurice. Devant les anciens Moudjahidines et la délégation russe, Saïd Saïoud, ministre de l'Intérieur, a rappelé la portée historique et humaine de cette coopération.
Colonel André Pavlenko, vous avez partagé avec vos amis algériens, au lendemain de l'indépendance, des moments inoubliables dans cette région frontalière. Vous vous étiez engagé aux côtés de nos équipes dans l'une des plus nobles missions, celle d'aider à débarrasser notre pays des séquelles laissées par le colonialisme, ce qui a contribué ainsi à sauver d'innombrables vies.
Entre 1962 et 1965, plus de 9 millions de mines ont été désamorcées grâce à la coopération entre équipes algériennes et soviétiques. Le colonel russe à la retraite, André Pavlenko, a rappelé la force du lien forgé sur le terrain entre les deux peuples.
Je suis très heureux d'être ici dans cette Algérie nouvelle, forte de la jeunesse qu'il a construite. Je suis fier d'avoir pu, modestement, contribuer à cette lutte après l'indépendance. J'ai eu l'honneur de participer, juste après 62, aux opérations de déminage sur le territoire algérien. Aujourd'hui, eh bien, c'est avec beaucoup de reconnaissance que je reviens sur cette terre, témoin de notre amitié indéfectible entre la Russie et l'Algérie.
60 ans après, cette stèle se veut un symbole de reconnaissance et d'amitié éternelle entre Alger et Moscou, une coopération qui, au-delà du déminage, continue d'unir les deux nations sur bien d'autres fronts.
Le Moudjahid Amal Taghida se souvient, lui, de l'arrivée des équipes soviétiques pour prêter main forte aux Algériens dans le déminage des mines de l'armée laissées par la colonisation française. Il témoigne ainsi au micro de Hajar Messaoudi.
Avec nos amis russes, on a fait appel à des spécialistes. On peut dire qu'il y avait environ 500 à 600 russes avec leurs ingénieurs, leurs équipements complets et leurs responsables. Aucun d'entre eux n'a été blessé ici. Tout s'est bien passé. Grâce à leur intervention, ce problème a été entièrement réglé, qu'il s'agisse des câbles électriques, des mines ou d'autres dangers. Comme vous le savez, ils ont commencé le travail depuis la mer jusqu'à la région de Ouatsouf.
Dans une allocution au Sommet mondial pour le développement social, une allocution lui en son nom, au nom du président de la République par le ministre du Travail, Abdelhak Sehi, a réaffirmé l'engagement de l'Algérie pour le développement durable basé sur les principes de solidarité et d'équité. Il a mis en avant les réformes engagées par le pays sur les plans institutionnels, économiques et sociaux pour renforcer la justice sociale et ainsi assurer une croissance inclusive. Le ministre des Affaires étrangères a reçu aujourd'hui le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali avec lequel il a évoqué les préparatifs de la prochaine réunion de la grande commission mixte algéro-tunisienne, la 23e du genre, pour réaliser des avancées et concrétiser davantage les acquis et pour hisser les relations bilatérales au plus haut niveau de partenariat d'intégration possible. Le chef de la diplomatie tunisienne en Algérie, dans le cadre de la réunion du mécanisme tripartite des pays voisins concernant la Libye, prévue demain jeudi. L'Algérie, qui au niveau régional comme international, soutient la stabilité en Libye et soutient le processus politique inter-libyen. Arsalan Chikhaoui est expert en relations internationales. Il en parle à Sofia Boukelcha.
Les partis sont préoccupés par la stabilité régionale, c'est-à-dire Afrique du Nord et Sahel, et surtout éviter tout interventionnisme externe qui pourrait miner la stabilité régionale. La réunion portera surtout sur les mécanismes de suivi, de dialogue politique inclusif intra-libyen entre toutes les parties et les factions en tension ou en crise. Dans le cadre d'une diplomatie de l'Algérie qui est une diplomatie d'abord multilatérale, mais surtout qui est une diplomatie de proximité, appelle et continue à initier plusieurs initiatives pour pouvoir avoir un dialogue politique et surtout une résolution de ce conflit en Libye.
La démarche dans le cadre d'une démarche dans le cadre de la mise en œuvre des hautes instructions des autorités suprêmes du pays pour simplifier et faciliter les procédures administratives et consulaires, l'Algérie a poursuivi aujourd'hui les démarches pour rejoindre la convention de La Haye sur la suppression de la légalisation des documents publics étrangers. L'ambassadrice d'Algérie au Royaume des Pays-Bas a ainsi déposé aujourd'hui le document d'adhésion auprès du bureau permanent de la conférence de La Haye de droit international privé, la convention qui permettra son entrée en vigueur effective vers le milieu de l'année prochaine. L'édition de 19h se poursuit avec la réunion du gouvernement aujourd'hui autour du Premier ministre Sifir Aliyev. Plusieurs dossiers à l'ordre du jour, notamment le foncier agricole et la lutte et prévention contre la drogue. Mayal Kins.
Le gouvernement a poursuivi l'étude de deux projets de décret exécutif. Le premier fixe les conditions et modalités de dépistage de la consommation de drogues et de substances psychotropes dans les établissements éducatifs, d'enseignement et de formation. Le second concerne les mesures de prévention lors des recrutements dans les secteurs publics et privés. Ces deux textes s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale 2025-2029 de prévention contre les drogues et substances psychotropes. Un plan ambitieux pour renforcer la protection des enfants, des jeunes et des milieux professionnels. Le gouvernement a également examiné un exposé sur la réorganisation de l'investissement privé dans le secteur de la santé en mettant en avant son encadrement législatif incitatif et sa complémentarité avec le secteur public. Autre dossier abordé, l'assainissement du foncier agricole relevant du domaine privé de l'État. Le gouvernement a examiné l'état d'avancement des travaux visant à régulariser la situation des terres agricoles et à en faciliter l'exploitation. Des commissions ont été mises en place au niveau des wilayas et des daïras pour améliorer la coordination et accélérer les procédures de récupération des terres inexploitées conformément aux orientations du président de la République. Enfin, le gouvernement réaffirme sa détermination à prévenir la consommation des drogues, un enjeu majeur de santé publique, afin de protéger les générations à venir.
Et pour sensibiliser et lutter contre la drogue, la Direction générale de la Sûreté nationale a organisé aujourd'hui une rencontre pour enrichir la stratégie nationale en la matière à travers des recommandations. Elle passe par la prise en charge efficace de la toxicomanie, prise en charge qui se renforce par des centres dédiés, explique le professeur Mohamed Chakali, représentant du secteur de la santé à cette rencontre. Il est au micro d'Assin Jemaj.
Depuis maintenant 96, le premier centre qui a été créé à Blida, France Fanon. Maintenant, on en a 5 services qui sont hospitaliers, un à l'est, un à l'ouest et 3 au centre du pays. Et nous avons 50 centres ambulatoires. L'objectif, c'est d'atteindre au moins qu'il y ait un centre par wilaya. La prise en charge de ces maladies addictives est une prise en charge qui est longue, qui est chronophage, qui prend du temps. Les séances sont longues, elles doivent se répéter pendant des mois et peut-être même des années. Et on peut aussi rechuter. Donc nous faisons un effort de formation pour combler tous ces centres et pouvoir répondre à toute la demande.
Et les éléments détachements combinés de l'armée nationale populaire qui ont mis en échec des tentatives d'introduction de plus de 4 quintaux de kif traités via les frontières avec le Maroc la semaine écoulée. Elles ont également procédé à l'arrestation de 8 éléments de soutien au groupe terroriste, a indiqué aujourd'hui un communiqué, un bilan opérationnel de l'armée nationale populaire. La réunion du conseil ministériel de l'Organisation des pays producteurs africains de pétrole s'est achevée aujourd'hui par la signature de l'accord de Brazzaville en présence du ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, l'accord qui porte sur le renforcement de l'industrie pétrolière locale en reposant sur les compétences continentales. L'Algérien Farid Razali a lui été élu à la majorité nouveau secrétaire général de l'organisation. Les précisions de l'expert international en énergie, Barded Mendouche, il est joint par l'Imbourgadou.
L'Algérie participe en tant que membre fondateur et il y a eu l'élection d'un Algérien à la tête de cette organisation, ce qui est une valeur ajoutée pour l'Algérie. Donc il y a 3 points à l'ordre du jour, c'est la révision des mécanismes de fonctionnement de l'APO d'une part, le renforcement de la coopération sur l'exploration, recherche et développement entre interafricains et également les mécanismes de renforcement des financements à travers la Banque africaine de financement des projets pétroliers et gaziers. Cette intégration s'inscrit dans le cadre plus global de la coopération pétrolière et gazière interafricaine. Et bien sûr, l'Algérie étant signataire de cet accord, elle s'intègre dans ce projet stratégique important compte tenu de son expérience en matière gazière, surtout pétrolière, et également détentrice d'une longue expérience dans l'industrie pétrolière et gazière et également des outils de réalisation à travers la Sonatrach et les filiales de Sonatrach dans le domaine des services pétroliers.
À Alger, le Forum africain des administrations fiscales poursuit ses travaux. Les participants planchent sur la transition numérique pour évaluer concrètement et en toute sécurité la fluidité du commerce africain. Ouli Femi Olafinde, conseiller spécial de l'administration fiscale nigériane, en parle à l'Imbourgadou.
Nous nous sommes rassemblés ici en Algérie pour discuter de coopération régionale, du monde du travail, de la transition du travail traditionnel vers le commerce numérique et de la manière dont nous pouvons gérer nos flux financiers, obtenir une valeur réelle de nos ressources et créer des opportunités économiques inclusives. Nous sommes ici pour défendre une liberté commerciale africaine et tracer une voie commune.
En parlant de coopération avec l'Afrique, ces accords, ou du moins ce renforcement de la coopération dans le secteur de la pêche, il passe par la signature d'octroi d'autorisation de pêche aux Algériens dans les eaux territoriales mauritaniennes. Badri Ben Ali, directeur des études à la Direction générale de la pêche et de l'aquaculture, était l'invité du jour. Il en parlait à Nesrine Tamou.
Nos frères mauritaniens ont octroyé au profit de l'Algérie un quota. Comme vous savez, toute la zone mauritanienne est très riche en poissons. Donc il a été octroyé pour l'Algérie un quota qui dépasse un petit peu les 31 000 tonnes annuelles. C'est un quota très important et qui sera peut-être amené à être développé, à être négocié. Et nous sommes actuellement en train de mettre en œuvre l'ensemble des mesures techniques pour que les professionnels algériens aillent pêcher ce poisson et éventuellement étudier toute la logistique nécessaire pour le transférer vers l'Algérie et être consommé par nos concitoyens. Donc actuellement, c'est toujours en cours. Les licences d'exploitation ont été octroyés. Maintenant, il reste le volet technique dont nous sommes en train de finaliser tous les volets d'importation, de pêche, de stockage, de logistique et tout ce qui s'ensuit.
L'invité du jour s'exprimait à la veille de la tenue de la deuxième édition du Salon international de la pêche et de l'aquaculture. Il débute demain à Oran. À l'étranger, qui se chargera de superviser le fragile cessez-le-feu à Gaza, d'autant que l'entité sioniste poursuit ses exactions et ses bombardements sporadiques contre la population. Le projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU élaboré par les États-Unis porte sur la création d'une force internationale à Gaza. La force ne s'ingérera pas dans la gestion des affaires internes de Gaza, estime depuis Ramallah le politologue Amjad Shihab. Il en parle à Albert Slimani.
Il y a de craintes sur cette force internationale de diviser géographiquement le projet de l'État palestinien, surtout que cette force n'est pas liée aux résolutions des Nations Unies. Elle est liée à un conseil de paix qui, sous domination, les Palestiniens, ils ont peur que cette force internationale joue un rôle sécuritaire pour les intérêts d'Israël. Surtout que l'accord de Trump nous parle pas du tout de droits politiques aux Palestiniens. Il parle juste de gérer les affaires civiles comme un projet humanitaire. Il n'y a aucune souveraineté palestinienne sur la bande de Gaza. L'occupation israélienne cherche aussi à garder les mains hautes sur le contrôle sécuritaire, surtout des points de passage, des frontières de la bande de Gaza.
Et l'entité sioniste qui dénonce la victoire historique du nouveau maire de New York, il s'agit de Zohan Mamdani. Il a souligné son hostilité envers l'entité sioniste. Le premier maire musulman de la plus grande ville des États-Unis n'a pas cessé de dénoncer le génocide sioniste et l'apartheid, la politique entreprise par l'entité sioniste envers les Palestiniens, comme nous le dit l'analyste politique Philippe Golub. Il en parle à Rabia Slimani.
La victoire de Mamdani est une victoire historique qui souligne la mobilisation de la jeunesse américaine, surtout dans les grands centres urbains de la côte est et de la côte ouest de la jeunesse américaine, en réaction aux inégalités criantes de la société américaine d'abord. Victoire historique aussi qui exemplifie la possibilité enfin d'un changement. Les anciennes élites du Parti démocrate sont en train d'être peu à peu remplacées. Cette nouvelle génération de jeunes politiciens qui pensent à Alessandra Ocasio-Cortez à New York aussi, qui sont les inégalités et son programme économique et social. Il y a aussi quelque chose de tout à fait intéressant et important. C'est un candidat musulman, c'est le premier maire musulman de l'histoire des États-Unis, en dépit du fait que la ville elle-même est une ville dans laquelle il y a une très forte population juive. Donc une très grande partie de la jeunesse juive a voté pour Mamdani. Et ça aussi, c'est significatif de l'aliénation très forte engendrée par la guerre génocidaire de Netanyahou à Gaza.
Dans l'actualité culturelle, cette clôture ce soir du Festival international du film arabe d'Oran, une clôture au centre des congrès de la capitale de l'ouest du pays. La ministre de la Culture, Melika Bendouda, assiste à la cérémonie qui se déroulera dans quelques minutes. Entre-temps, un autre festival pointe du nez, celui du court-métrage, Festival international de Timimoun, une première édition dédiée au cinéma africain avec l'invité d'honneur, le Sénégal. Une trentaine de pays africains présenteront leurs œuvres. Sidali Fales a justement évoqué la question avec Zinedine Arab, le commissaire de ce festival.
Timimoun, Ksar Cinéma Tinerkouk, c'était en 2023 et a été réquisitionné de la part du ministère de la Culture et des Arts. Le Centre Algérien de Développement du Cinéma est en train de le gérer. Actuellement, il est en train de rénovation et normalement, la rénovation Théo, c'est bon, elle était faite. Pourquoi Timimoun aussi? Il contient des studios de tournage, des apparts pour hébergement, donc il va minimiser trop les coûts, surtout par rapport au tournage et même à la post-production. Et pourquoi Timimoun? C'est une ville touristique, c'est une ville qui contient des décors naturel, éclairage naturel, artistiquement, c'est une ville très belle, film, fiction, doc, des films algériens sélectionnés, 63 films, il y aura des tables rondes, il y aura des masterclass et même les ciné-clubs, 31 pays et 23 pays africains. Plus que 2730 films ont été inscrits.
Le Festival international du court-métrage de Timimoun, c'est du 13 au 18 novembre prochain. L'actualité sportive, c'est avec vous, Nassima Djouid. Bonsoir.
Bonsoir, Sofiane.
Le sport roi, le sélectionneur national Vladimir Petkovic animera une conférence de presse demain à la salle des conférences du stade Nelson Mandela.
Et c'est en prévision des deux rencontres amicales que disputera la sélection nationale à Jeddah face au Zimbabwe le 13 novembre et à l'Arabie Saoudite le 18 novembre. Le sélectionneur national. Vladimir Petkovic animera une conférence de presse demain jeudi à 15h à la salle des conférences Mohamed Salah au stade Nelson Mandela de Berri. Demain, le coach national dévoilera la liste des joueurs convoqués pour les deux rencontres amicales.
Et en première journée des phases de groupe de la Champions League africaine, le Mouloudia d'Alger affrontera El Hilal du Soudan à Kigali au Rwanda.
Le club soudanais d'El Hilal a décidé de recevoir ses adversaires au stade Amahoro de Kigali au Rwanda. Cette décision s'explique par l'impossibilité de jouer à Khartoum en raison de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement au Soudan. Ainsi, El Hilal du Soudan recevra le Mouloudia d'Alger à Kigali lors de la première journée du groupe C, donc lors de la phase des groupes de la Ligue des Champions prévue entre le 21 et le 23 novembre 2025. El Hilal du Soudan et le Mouloudia d'Alger se trouve dans le groupe des Sud-Africains Mamelodi Sundowns et des Congolais de Saint-Éloi Loupopo. Pour rester compétitif, l'Ahli du Soudan sera engagé cette saison dans le championnat rwandais après avoir été en lice en championnat mauritanien la saison dernière.
Et puis en Champions League européenne, la suite de la quatrième journée, une affiche ce soir, elle opposera deux internationaux algériens.
Oui, ça sera d'ailleurs l'affiche de cette quatrième journée, de cette soirée. Il y aura donc les regards vont être tournés vers Manchester City de Ryan Aitnouri qui reçoit le Borussia Dortmund de Rami Ben Sebaini dans le choc au sommet à partir de 21h. De son côté, l'Olympique de Marseille joue très gros en recevant l'Atalanta Bergame au Vélodrome. Le Barça, quant à lui, se déplacera en Belgique pour y affronter le club de Bruges. Newcastle affrontera l'Athletic Bilbao.
Merci Nassima Djaout pour cette actualité sportive dernière de cette édition réalisée par Sidali Tobal, Ahmed et Adrianete à la console technique.